This is CKCU Literary News. Voici les actualités littéraires dans le monde francophone. Au microphone, Hanske Orger-Ruprecht.
Bonjour. Si cette émission vous est présentée, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, quelques jours seulement après la date du centenaire de la naissance de Charlotte Delbault, écrivaine française, née le 10 août 1913 à Vigneux-sur-Seine, c'est parce que nous désirons, nous aussi au Canada, rendre un tribut d'admiration et d'hommage, aussi modeste qu'il soit, à cette femme politiquement engagée dès sa première jeunesse, qui fut une résistante sous l'occupation allemande de son pays et qui fut déportée en janvier 1943 vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où elle fut témoin de la Shoah. Ultérieurement transférée au camp de Ravensbrück, elle fut libérée par la Croix-Rouge internationale en avril 1945. Son nom d'écrivain restera à jamais associé à la trilogie « Auschwitz et après », dont les volets s'intitulent « Aucun de nous ne reviendra ». Puis, « Une connaissance inutile ». Et finalement, le volume « Mesure de nos jours », tous parus au cours des années 1970 aux éditions de Menuis. Mais comme vous allez entendre dans un instant, grâce à notre correspondante à Paris, Christine Salès, qui s'en est entretenue de l'œuvre littéraire de Charlotte Delbault avec la journaliste Violaine Gély, co-auteur avec l'historien Paul Gradvol d'une biographie de Charlotte Delbault parue cette année aux éditions Fayard, c'est la question de savoir comment faire œuvre de mémoire, comment faire voir, par l'écriture littéraire, l'inexprimable, ou, pour employer une expression de Charlotte Delbault, comment expliquer l'inexplicable qu'est la Shoah? Voilà la question centrale de son œuvre littéraire importante. Dans « Aucun de nous ne reviendra », qui est le premier volet de sa trilogie, paru en 1970, Charlotte Delbault écrit, citation, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce que j'ai écrit soit vrai. Je suis sûr que c'est véridique. Fin de citation. Voici donc la contribution de notre correspondante à Paris, Christine Salès.
Cette année, nous célébrons le centenaire de naissance de Charlotte Delbault. De nombreux événements sont ainsi organisés un peu partout en Europe pour mieux connaître l'œuvre littéraire de cette femme d'exception. L'Institut culturel français de Londres ou le centre Le Bourneau d'Aubenas en Ardèche sont quelques-uns des lieux où la voix de Charlotte Delbault va encore résonner en ce temps 2013. L'Association des Amis de Charlotte Delbault indique d'ailleurs sur son site officiel charlottedelbault.org l'essentiel du programme très riche de ce centenaire. Pour nous parler de Charlotte Delbault, nous allons écouter la journaliste Violaine Gély qui a bien voulu répondre à quelques questions. Elle vient de consacrer à Charlotte une biographie remarquable, épaulée par son mari, l'historien Paul Gradvol, et publiée par les éditions Fayard en janvier 2013. Écoutons-la.
J'ai découvert Charlotte Delbault au début des années 90, quand les éditions de Minuit ont réédité, 5 ou 7 ans après sa mort, la trilogie qu'on appelle Auschwitz et après, qui compte donc 3 essais, 3 récits, « Aucun de nous ne reviendra »,« Une connaissance inutile » et « Mesure de nos jours ». Et ces trois ouvrages-là, qui sont donc le récit de ces 27 mois de déportation, démarrent sur Auschwitz, avec aucun de nous ne reviendra, et dans le deuxième tome se conclut sur Ravensbrück. Dans le troisième tome, là où Charlotte Delbo est originale, c'est qu'elle a eu une démarche littéraire que personne n'a eue avant elle, c'est-à-dire qu'elle est allée retrouver ses compagnes de camp 20-25 ans après leur libération et qu'elle leur a demandé comment elles en étaient sorties, comment elles s'étaient remises dans la vraie vie après ce qu'elles avaient vécu. Et ce qui est très fort dans Mesure de nos jours, c'est qu'on comprend bien qu'on ne sort jamais d'Auschwitz, qu'on peut faire semblant de vivre, mais qu'on n'en revient jamais totalement. Moi, j'ai adoré, évidemment, comme j'imagine tous ceux qui ont lu Delbo, ces trois textes, parce que j'y ai découvert une écriture hors du commun, c'est-à-dire que ce ne sont pas des récits d'une expérience, c'est la transformation en littérature d'une expérience qui est l'expérience concentrationnaire. Là où beaucoup d'autres ont écrit sur ce qu'ils avaient vécu, Delbo l'a transformé en littérature. Et surtout, ce que j'ai aimé chez elle et ce qui me semble être propre à son genre, c'est-à-dire propre au fait qu'elle soit une femme, en comparaison aux écrivains hommes qui ont écrit sur la déportation, c'est qu'elle parle de la chair, elle parle des sens, elle parle comme aucun n'a parlé du froid, de la faim, de la soif, de la peur, et qu'elle nous met en position de ressentir à travers ce qu'elle écrit, ce qu'elle a ressenti à Auschwitz et à Ravensbrück. Donc je pense que c'est vraiment la spécificité de Delbo comparée aux autres écrivains de la déportation.
Et comment vous est venue l'idée d'écrire sur Charlotte Delbo? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un tel intérêt pour son écriture vous a un jour donné envie d'écrire sur la vie de cette femme que finalement on connaît peu en France?
Après avoir aimé ses livres, j'ai donc cherché partout ce que je pouvais trouver sur elle et sur sa vie. Parce que les années 90, en plus, c'est avant Internet, donc on ne peut pas taper sur Wikipédia. Et donc, je me suis heurtée vraiment à un grand trou noir, c'est-à-dire que peu de gens avaient lu Delbo. Et de toute façon, on savait qu'elle était morte en 85, ses textes étaient parus, étaient encore édités pour certains, mais pas tous. Et voilà, on ne savait rien sur elle. Donc, j'ai commencé à chercher de mon côté. Et puis un jour, je suis tombée sur cette phrase de Doris Lessing qui dit « Si vous avez envie de connaître quelque chose sur quelqu'un, eh ben écrivez-le. » Et du coup, je me suis piquée au jeu et j'ai commencé une démarche journalistique, c'est-à-dire que j'ai commencé par approcher son ayant droit, qui est une de ses plus vieilles amies, qui est toujours d'une vieille dame. J'ai essayé d'approcher des gens qui l'avaient rencontrée. Et sur le chemin de cette biographie, j'ai suscité la curiosité de mon co-auteur, Paul Gradvol, qui lui est historien-chercheur, et qui m'a accompagnée là où moi je rencontrais les gens, je lisais les livres, etc. Lui s'est plongé dans les archives historiques de la préfecture de police de Paris, les archives d'Auschwitz, etc. Et à nous deux, je pense qu'on a réussi à retrouver le fil de cette vie au maximum en l'état actuel des connaissances, en sachant que Charlotte Delbo, donc résistante communiste, élevée dans ce culte du secret qui était celui des résistants communistes parce que sinon ils y laissaient leur peau, Charlotte Delbo n'a laissé aucune trace. C'est-à-dire que ces archives ne comptent pas beaucoup d'informations, on ne retrouve pas son dossier dans les archives du PCF. On en a trouvé un petit peu à Moscou, mais c'est vrai qu'elle a effacé toutes ses traces tout au long de sa vie. Donc nous nous sommes efforcés d'en retrouver le maximum dans l'état actuel des connaissances.
Alors justement, sa vie à Charlotte Delbo, c'est quoi?
Charlotte Delbo était née en 1913 dans une famille d'immigrés italiens, famille d'ouvriers, sa mère travaillait et ne travaillait pas, son père était chef de chantier. Et elle est devenue sténodactylo. Et elle s'est installée à Paris, enfin voilà, dans les années 30, une jeune femme qui gagne sa vie, qui est indépendante. et qui, par le plus grand des hasards, entre dans le milieu communiste, même si on était plutôt de gauche dans sa famille, entre dans le milieu communiste en rencontrant Henri Lefebvre, qui deviendra par la suite un grand philosophe et un grand sociologue français, mais qui à l'époque est un jeune homme qui milite au PC, et qui l'entraîne à l'université du Parti communiste, qui était réservée aux jeunes gens qui militaient pour le parti. Et là, elle découvre la philosophie, elle découvre la sociologie, elle s'initie au marxisme, et puis surtout, elle tombe amoureuse de son mari, qui est également un jeune militant communiste. Ils ont tous les deux 25 ans. Il s'appelle Georges Dudas, ils vont se marier. Et Georges Dudas est le rédacteur en chef d'une petite revue pour jeunes étudiants communistes, qui s'appelle Les Cahiers de la Jeunesse. Et pour rendre service à Georges, Charlotte fait des piges de temps en temps, et elle écrit notamment sur la littérature et le théâtre. Et un jour, pour les Cahiers de la Jeunesse, elle va interviewer Louis Jouvet, qui est à l'époque la grande star du théâtre et du cinéma français. Et Jouvet est séduit par cette jeune femme, intelligente, vive et qui par ailleurs maîtrise parfaitement la sténo. Et il l'embauche pour l'accompagner quand il donne ses cours au Conservatoire National d'Art Dramatique, pour qu'elle prenne en note ce qu'il dit à ses élèves. Pendant 3 ans, Charlotte Delbault va donc être la secrétaire particulière de Jouvet, jusqu'à l'accompagner dans ses tournées quand la guerre éclate. Jouvet part se mettre un petit peu à l'abri de l'occupant allemand, et il va partir pour une longue, longue tournée en Amérique latine qui va durer 5 ans. Donc Charlotte Delbault l'accompagne dans un premier temps, et puis au bout de 6 mois, elle se dit « je ne peux pas rester ici alors que mes amis, mon mari sont menacés, je rentre ». Donc Jouvet tempête, Jouvet s'énerve, Jouvet fait du chantage, mais elle ne cède pas. Elle rentre toute seule depuis l'Argentine en bateau, et là elle rejoint Paris, elle rejoint Georges Dudas et rentre dans la clandestinité. Et c'est là où ils seront cueillis par les brigades spéciales, c'est-à-dire les policiers français aux ordres de Vichy et de la Gestapo. Ils seront tous les deux emprisonnés, Georges sera fusillé et Charlotte déportée à Auschwitz, puis à Ravensbrück.
Et cette arrestation des époux Dudas, elle a lieu quand exactement ?
Ils sont arrêtés en mars 1942, Georges est fusillé en mai de la même année et Charlotte est déportée par le convoi du 24 janvier 1943, qui est le convoi des déportés politiques françaises à Auschwitz, le seul convoi non-juif qui sera en direction d'Auschwitz.
Sur les 230 femmes qui ont été déportées, seules 49 en sont revenues après 27 mois de captivité. Qu'est devenue Charlotte à son retour ?
À son retour d'Auschwitz, bien sûr, Louis Jouvet va lui proposer de la reprendre dans la troupe de l'Athénée pour qu'elle retrouve sa place. Et elle va essayer, mais elle est dans un tel état de fatigue, d'épuisement, elle a un corps qui fonctionne plus, elle est atteinte de beaucoup de maladies. Elle ne tient pas le coup, donc elle part 6 mois dans une clinique en Suisse qui accueille les déportées françaises rescapées. Et là, pendant qu'elle se retape, elle écrit. Elle écrit « Aucun de nous ne reviendra », c'est-à-dire qu'en un mois, sans une rature, sans un retour en arrière, elle écrit ce qui deviendra le premier tome de la trilogie Auschwitz et après. Et puis, elle l'enferme dans un tiroir et elle décide de ne pas le publier pendant 20 ans. Elle dira à ses amis « Je ne veux pas écrire Tartempion à Auschwitz ». En fait, elle a déjà dans l'idée de faire une œuvre, de laisser une trace. Et au lendemain de la guerre, alors qu'il y a beaucoup de témoignages sur les camps qui sortent et tout, elle veut être à l'écart de ça. Donc, elle enferme au fond d'un tiroir, aucun de nous ne reviendra. Elle quitte Louis Jouvet et la France pour travailler pendant 15 ans à l'ONU, où elle est traductrice, secrétaire, en Suisse, à Genève. Et puis, dans les années 60, il s'opère une coupure, c'est-à-dire qu'elle quitte l'ONU. Elle retrouve son vieil ami Henri Lefebvre, qui est à l'époque au CNRS, et elle devient son assistante, ce qu'elle sera jusqu'à leur départ à la retraite à tous les deux. Mais elle se met à écrire. C'est-à-dire qu'au début des années 60, par conviction anticoloniale, elle écrit une anthologie de lettres contre la guerre d'Algérie, qui s'appelle « Les belles lettres », et qui est publiée aux éditions de Minuit.
Et puis, c'est un livre qui a un petit succès d'estime et il y a une petite maison d'édition qui lui dit « Mais tu n'as pas d'autres textes dans tes tiroirs ?» Et elle dit « Ben, si, j'en ai un. » Et elle ressort « Aucun nous ne reviendra. » Et à ce moment-là, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui s'était dénoué en elle. Et elle qui n'avait plus écrit pendant 20 ans, elle ne va plus arrêter d'écrire pendant les 20 années qui lui restent à vivre. Donc, constamment, elle revient sur Auschwitz, que ce soit dans la trilogie, dans le convoi du 24 janvier où elle établit la biographie des 230 femmes du convoi qui ont été déportées avec elle, ou alors à travers des pièces de théâtre comme qui rapportera ses paroles, ou des poèmes. Alors elle écrit aussi de façon très militante, elle écrit dans le journal Le Monde très souvent des tribunes, elle prend position contre les dictatures militaires, elle prend position contre Pinochet, contre Videla, contre Jaruzelski, enfin elle est très présente dans le monde où elle vit et elle manifeste constamment son côté rebelle et refus de la dictature et de tout ce qui peut écraser l'homme. Et puis, la fatigue de ce corporel d'Auschwitz finit par la rattraper et elle tombe malade en 82. Elle mourra le 1er mars 1985.
L'ensemble de l'œuvre de Charlotte Delbault est étonnamment plus connue aux États-Unis ou au Canada qu'en France. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce parce que ses textes ont été publiés longtemps après ceux de ses compatriotes de captivité, notamment des hommes ? Ou parce qu'elle témoignait peu, finalement, de son vivant?
Charlotte Delbault est peu connue en France, malheureusement, pour plusieurs raisons, pour, à mon avis, deux raisons essentielles. D'abord, elle publie sans doute trop tard, parce que pendant une vingtaine d'années, notamment en France, les récits de déportation ont été ceux de résistants communistes, de jeunes gens qui, comme Charlotte, avaient... tout engagé pour défendre leur pays contre le nazisme et qui avait pris en compte les risques de mort, de torture, de déportation. Et cette génération-là apparaît moins, mais en revanche, on découvre la Shoah. C'est-à-dire qu'on découvre que comparé à ces jeunes gens volontaires, etc., il y avait des millions d'autres qui, sans raison, uniquement parce qu'ils étaient juifs, ont été non seulement déportés, mais exterminés. Et les récits de Shoah sont de plus en plus importants. C'est là que Primo Levi, même s'il a publié avant, prend de l'importance. Dans les années 75, le grand public découvre la série télé Holocaust et c'est là que commence aussi un intérêt. Et puis, voilà, on va avoir le cinéma, on va avoir le choix de Sophie, on va avoir la liste de Schindler. Et tous les récits de gens comme Charlotte, qui eux n'étaient pas juifs, vont passer au second plan. Et par ailleurs, et ça c'est typiquement français je pense, puisqu'elle est très lue ailleurs, je pense qu'elle est victime du fait qu'elle soit une femme. C'est-à-dire que dans la psychologie française, et notamment dans celle de la génération qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les héros sont des hommes, et on peut s'attendre à ce qu'ils souffrent le pire, mais voir que des femmes, c'est-à-dire des mères, des sœurs, des filles, ont pu vivre ce que raconte Charlotte avec ces mots-là, avec cette crudité-là, je pense que c'est quasiment insupportable pour des hommes, et donc les hommes qui tenaient l'édition française dans les années 60. Alors ça n'est pas le cas dans des pays comme les États-Unis ou comme le Canada, où justement les gender studies autorisent la lecture de Delbault parce qu'elle est une femme justement et non pas en dépit du fait qu'elle soit une femme. Donc heureusement dans ces pays-là, Charlotte est connue, est étudiée, il y a des thèses, il y a des travaux, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour d'elle, elle continue à être jouée dans les théâtres, mais en France ça n'est pas le cas. Donc, nous avons essayé de saisir la chance du centenaire de sa naissance en 2013 pour la remettre un peu sur le devant de la scène. Il nous a semblé qu'il était important, plus de 70 ans après les faits, on puisse réentendre cette voix-là et la réentendre à sa place comme celle d'une femme et d'une écrivaine.
Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse. quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau et de votre poil. Apprenez à marcher et à rire parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Ces quelques mots sont souvent cités en hommage à Charlotte Delbault. Ils sont tirés d'une connaissance inutile, parue aux éditions de Minuit. Si vous voulez entendre sa voix, allez faire un tour sur le site de lina.fr et trouvez-y le radioscopie que Jacques Chancel lui avait consacré en 1974. Vous serez comme moi certainement surprise de découvrir quelle gouaille, quelle énergie et quelle pétulance il y avait dans cette femme. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'œuvre de Charlotte Delbault, allez sur le site charlottedelbault.org. Vous trouverez foultitude de références sur ses textes ou sur les personnes qui lui sont proches en écriture. Procurez-vous sans tarder la biographie Charlotte Delbault de Paul Gradvol et de Violaine Gély. Ou sinon, allez sur le site des éditions de Minuit, des éditions Fayard ou de Berck International pour vous procurer, sans tarder, si ce n'est déjà fait, les textes de Charlotte Delbault.
Christine Salès, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Au revoir.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusé en continu et en différé, tel qu'indiqué sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.